Les podcasts du Collège de France, Biologie.
Bienvenue à ce deuxième cours sur les mécanismes cérébraux de la lecture. La semaine dernière, nous avions abordé plusieurs points en introduction. Le premier était de rappeler que la lecture n'est pas une capacité normale de notre cerveau de primate, c'est une invention culturelle. Et donc, nous allons l'aborder sous l'angle du recyclage d'une partie de notre système visuel afin d'accéder aux représentations linguistiques par le biais de la vision. Donc, il s'agit d'imaginer un système qui est reconverti à un usage différent de celui pour lequel il a évolué. Et j'avais souligné que les contraintes qui sont imposées à la lecture par notre système visuel sont considérables. Nous avions vu que, par le biais de ces contraintes du filtrage de la page par la rétine, nous devons sans cesse déplacer le regard afin d'acquérir une information de haute résolution à l'intérieur de la fovéa, le centre de la rétine. Nous n'acquérons d'informations que sur une dizaine de lettres à chaque fixation du regard. Et nous ne recevons du stimulus montant que des informations statistiques partielles. Et nous avions vu donc que notre système visuel, lorsqu'il reçoit une entrée structurée suivant les règles, par exemple de l'orthographe du français que nous avons appris, eh bien notre système visuel rajoute des informations qu'on pourrait appeler descendantes, qui sont issues des statistiques de notre langue, et ces statistiques vraisemblablement s'établissent à différents niveaux. Nous avions parlé des statistiques simplement dans la séquence de lettres en entrée, cette expérience de George Miller, qu'il avait montré il y a déjà 50 ans, qui vraisemblablement suggère qu'il y a un codage au moins dans les transitions entre les lettres, mais également la possibilité qu'il y ait des niveaux de représentation beaucoup plus élevés, de type représentation des syllabes, représentation des morphèmes ou des mots entiers. C'était donc une première introduction à la psychologie de la lecture, et nous avions parlé des différents effets qui modulent la vitesse avec laquelle nous pouvons lire des mots, et de la notion qu'il existe une compétition au sein d'un système hiérarchisé dans lequel différentes unités vont essayer chacune de détecter leur stimulus favori, qu'il s'agisse d'un bigramme, d'une syllabe ou d'un mot. Et aujourd'hui, nous allons commencer à nous intéresser aux bases physiologiques de ce système de la lecture, en particulier en commençant par examiner quelles sont les régions cérébrales qui interviennent, et en particulier à cette étape particulière initiale de la reconnaissance visuelle des mots, l'identification visuelle des mots. Et je parlerai ensuite de la manière dont l'invariance perceptive est atteinte. L'invariance perceptive est un problème crucial, puisque nous voyons des mots dans des conditions extrêmement différentes de distance, de police de caractère utilisé et de position exacte du mot sur la rétine. Et notre système visuel doit, c'est sa première tâche, reconnaître le mot indépendamment de toutes ces variations dans le stimulus en entrée. Alors, ce sera le début donc d'exposer sur la physiologie de l'identification visuelle du mot et la physiologie de la lecture, mais je me suis rendu compte qu'il faudrait bien deux cours pour aborder cette question, et donc le prochain cours continuera sur la même lancée pour examiner plus en détail, en descendant jusqu'au niveau neuronal, quels sont les mécanismes fins de l'identification visuelle des mots. Alors, j'avais terminé le cours précédent sur cette citation de Nabokov, que j'aime beaucoup, qui nous rappelle que nous sommes absurdement accoutumés au miracle de quelques signes écrits capables de contenir une imagerie immortelle, des tours de pensée, des mondes nouveaux, avec des personnes vivantes qui parlent, pleurent et rient. Et si un jour nous allions nous réveiller tout autant que nous sommes et nous retrouver dans l'impossibilité absolue de lire ? Et je ne sais pas si Nabokov connaissait les travaux de la neuropsychologie de la lecture, mais évidemment, c'est exactement la situation qu'a pu observer Dejerine, un médecin français, dès 1892. C'est la première publication qui a conduit à clarifier l'organisation cérébrale de la lecture. Dejerine était neurologue et a observé un patient qui lui a raconté qu'un matin de 1888, en se levant, il se rend soudainement compte que lorsque son regard se pose sur le journal, il ne parvient plus à lire un seul mot. Et l'étude de Dejerine est extrêmement intéressante, une très fine, plus d'une cinquantaine de pages, qui examine pas par pas les compétences de ce patient et établit ce que nous connaissons aujourd'hui sous le terme d'alexie pure, un syndrome qui existe de façon reproductible à la suite de lésions cérébrales. Ce qu'observe Dejerine, c'est dans un premier temps que l'identification des mots écrits est essentiellement difficile, voire impossible. Le patient ne reconnaît plus un mot unique. pour reprendre l'exemple du journal, il y a le titre du journal qu'il connaît très bien, c'est Le Matin. Il n'arrive pas à lire le titre de ce journal, il arrive à reconnaître qu'il s'agit du matin parce qu'il y a une police de caractère très particulière, un peu comme Le Monde aujourd'hui, qui permet de le reconnaître. Alors, on appelle ça alexie pure pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est qu'il s'agit d'un déficit relativement isolé de l'identification visuelle des mots, alors que la perception d'autres catégories d'objets peut être intacte. Et notamment la dénomination donc, des objets ou des visages peut être entièrement préservée. C'était le cas chez le patient d'Egerine qui arrivait encore parfaitement à nommer différents objets de la vie quotidienne, qu'il s'agit de dessins aux traits ou des objets réels. De façon très intéressante, et c'est assez fréquent dans l'alexie pure, le patient d'Egerine était encore capable de reconnaître des chiffres et des nombres écrits avec 2, 3 ou 4 chiffres. Ce qui signifie, vous voyez, que le déficit concernait un aspect assez restreint de la perception visuelle, l'identification d'une chaîne de lettres. Vous voyez que la différence entre chiffres et lettres est totalement culturelle. La forme des chiffres aurait pu, après tout, servir de lettres. Et dans certains pays, ce sont les mêmes formes qui servent pour les chiffres et pour les lettres. Et donc le fait qu'il y ait une préservation de la perception des chiffres suggère qu'il y a une canalisation de l'information visuel en fonction de son usage et non pas simplement en fonction de son organisation en tant que stimulus visuel. Et la perception de l'organisation des lettres semble faire appel à des régions cérébrales particulières qui peuvent faire l'objet d'une lésion particulière. Alors l'alexie est dite pure, l'incapacité de lire est dite pure, également pour une autre raison, c'est qu'à l'intérieur du domaine du langage, d'autres capacités linguistiques sont largement préservées. Et c'est le cas de la perception et de la production de la parole. Ce ne sont pas des patients qui sont aphasiques, aucune difficulté particulière dans le domaine de la perception et de la production de la parole, mais même l'écriture des mots peut être intacte. Et c'est assez étonnant de voir le patient, et Degerine le décrit très bien, qui est encore capable de prendre sous dictée des mots, une phrase entière, et qui, quelques secondes plus tard, ne parvient pas à relire. Alors quand on dit que l'écriture est intacte, évidemment, Degerine discute ce point également, le guidage visuel de la main n'est pas parfait. Et en réalité, il décrit très bien comment le patient préfère écrire les yeux fermés, parce que lorsqu'il reçoit une entrée visuelle qui, à présent, est anormale, ça le gêne pour écrire. Mais lorsqu'il écrit les yeux fermés, il écrit tout à fait normalement. Bien, alors c'est cette première observation qui est donc répliquée, y compris d'ailleurs la dissociation entre lecture des mots et lecture des nombres, hein, que nous avons pu répliquer chez plusieurs patients avec mon collègue Laurent Cohen. C'est une observation donc, qui conduit à penser qu'il existe un système d'identification visuelle des mots qui est isolable dans le cerveau, et Degerine doit attendre évidemment l'autopsie avant d'avoir une idée des lésions responsables de ce syndrome d'alexie pure. À l'autopsie, il observe des anomalies qui suggère une lésion assez ancienne dans la région basale du cerveau. Alors ici, vous voyez le cerveau vu de dessous, il est retourné, donc l'hémisphère gauche apparaît sur la droite de ce schéma, et donc c'est ici la face ventrale de l'hémisphère gauche qui est atteinte par la lésion dans sa partie occipito-temporale, et on va voir tout de suite que c'est une lésion qui est tout à fait caractéristique de ce syndrome d'alexie pure. En fait, comme je vous l'ai dit, on peut retrouver chez des patients récents ce syndrome d'alexie pure, dans différents pays d'ailleurs. Et Laurent Cohen, en 2003, a publié un travail intéressant dans lequel il recense plusieurs cas de patients avec ces lésions de la région occipito-temporale, lésions d'origine vasculaire, et il examine l'intersection de ces lésions et la compare avec celles de patients qui ont subi des accidents vasculaires de la même région mais qui ne souffrent pas d'alexie pure. Il est clair que les méthodes modernes présentent plusieurs avantages dans ce domaine. Grâce à l'IRM, on peut identifier la lésion du patient de façon tout à fait fine, bien entendu sans avoir à attendre l'autopsie. Et on peut également pratiquer des traitements informatiques qui permettent de normaliser ces différences de cerveau dans un espace anatomique qui a été défini par le médecin français Jean Talleyrac, et à ce moment, de réaliser des statistiques comme par exemple l'intersection de ces différentes lésions. Vous voyez que les lésions peuvent avoir des territoires tout à fait importants, mais si on regarde leur intersection et si on soustrait les lésions qui n'ont pas affecté la capacité de lecture, eh bien on s'aperçoit que cette analyse converge vers une petite région de la voie ventrale de l'hémisphère gauche. Alors ici, c'est le cerveau est vu en coupe, et donc dans ces coupes, on préfère par commodité placer l'hémisphère gauche à gauche et l'hémisphère droit à droite. Donc vous avez l'hémisphère gauche ici, la face ventrale, et sur cette face ventrale, un point tout à fait précis qui correspond au maximum de l'intersection de ces lésions, au maximum de probabilité qu'on souffre d'un trouble de la lecture si on a une lésion dans cette région. Alors, d'autres études, celles de Damasio, celles de Binder et Moore, convergent pour suggérer un rôle particulier des lésions de cette région ou de leur disconnexion d'avec le reste du pôle occipital dans l'analyse des troubles de la lecture. Donc, vous pouvez avoir une lésion directe de cette région. Vous pouvez également avoir une disconnexion dans laquelle la substance blanche qui amène les informations à cette région va être lésée et va empêcher, par exemple, la communication entre le pôle occipital et cette région occipitotemporale. Alors, le rôle de cette région occipitotemporale est confirmé d'une manière extrêmement convergente, et je vais vous montrer dans les quelques diapositives qui suivent différentes techniques qui toutes convergent pour suggérer que cette région joue un rôle tout à fait particulier dans l'identification visuelle des mots écrits. La première de ces techniques, chez le sujet normal, sans lésion, c'est l'IRM fonctionnel qui nous permet de visualiser l'ensemble du cerveau à une échelle de quelques millimètres et d'examiner quelles sont les régions activées lorsqu'une personne lit un mot. Cette méthode peut être déclinée suivant différentes manières. Les deux prochains cours tout entiers seront consacrés à différentes utilisation de cette méthode dans des paradigmes psychologiques de plus en plus raffinés. Mais l'image la plus simple que l'on peut faire, c'est tout simplement quel est le réseau qui s'active lorsqu'on flash un mot devant la personne. Et vous savez, j'avais décrit ça dans le cours de l'année passée, qu'il faut attendre quelques secondes avant de voir le signal d'IRM monter puis redescendre dans les régions qui sont concernées par cette tâche. Et lorsqu'on flash un mot et lorsqu'on le compare simplement à la situation où le sujet est au repos, ou peut-être à la situation où le sujet voit un damier pour contrôler pour l'activité visuelle de bas niveau, eh bien on voit tout un réseau qui s'active lors du traitement de la lecture. Ce réseau n'est pas complètement complet ici, il manque d'autres régions du lobe temporal pour des régions de soustraction que je n'expliquerai pas ici, mais on y viendra dans les cours suivants. Mais on va se focaliser dans les deux prochains cours sur donc, cette région occipito-temporale gauche. Vous la voyez ici en coupe. Vous voyez qu'au niveau de cette coupe, l'activation cérébrale est extrêmement latéralisée. Elle est située très largement dans l'hémisphère gauche et il y a peu ou pas d'activation en moyenne dans la région équivalente de l'hémisphère droit. Il y en a un petit peu, on va le voir par la suite. Et vous voyez que la localisation précise de cette région dans le sillon occipitotemporal latéral gauche, ici, correspond très étroitement à l'analyse des lésions qui avaient pu être faites par le docteur Laurent Cohen. Et en réalité, on peut pratiquer cet examen d'IRM fonctionnel chez les patients eux-mêmes. Et ici, vous avez l'exemple donc, d'un patient, toujours analysé par Laurent Cohen, qui a une lésion dont le contour est dessiné en vert ici. Vous voyez que la lésion est largement postérieure, mais qu'elle avance à l'intérieur du sillon occipitotemporal un petit peu en avant. Si on fait une coupe à ce niveau, c'est précisément le niveau où on observe de l'activation chez les personnes normales en IRM fonctionnel, et cette activation est essentiellement manquante, on devine ici la pointe de la lésion, chez ce patient qui souffre d'alexie pure, d'une incapacité de lire. Alors, ce qui est tout à fait caractéristique de certains de ces patients avec alexie pure, c'est la courbe de temps de lecture en fonction du nombre de lettres. Vous voyez ici qu'on a indiqué le nombre de lettres des mots qui étaient présentés et on a mesuré combien de temps il fallait à cette personne pour essayer de le lire. Alors, certains des patients les plus sévères, c'était le cas de celui de Degerine, vont être totalement incapables de produire quoi que ce soit. Mais d'autres patients sont encore capables d'identifier les lettres élémentaires qui constituent le mot et vont avoir cette capacité de lecture lettre par lettre. Ce que vous voyez, c'est que le temps de lecture croît de façon très importante en fonction du nombre de lettres du mot. Je vous avais montré la semaine dernière que ça n'est pas le cas chez les personnes normales, chez les adultes experts de la lecture. Il y a une courbe qui est relativement plate et beaucoup plus rapide. Ces patients retombent dans une situation où il leur faut décoder le stimulus écrit, lettre par lettre, et ça se traduit par un ralentissement très important. Ce ralentissement nous indique presque comme en miroir ce que ces patients ont perdu. Ils ont perdu cette capacité d'intégration du stimulus visuel sous une forme parallèle dans laquelle toutes les lettres sont traitées simultanément. Alors, on va, au fil des cours suivants, explorer les compétences de cette région, mais je vous montre simplement quelques diapositives sur l'organisation essentielle de cette région, donc occipitotemporale gauche, qui intervient dans l'identification visuelle des mots. Et dans cette expérience extrêmement simple, on a scanné ici plusieurs personnes, vous en voyez sept différentes, dans une situation dans laquelle les mêmes mots pouvaient être présentés dans la modalité visuelle ou dans la modalité auditive. Et ce que vous voyez très clairement, c'est que cette région ici à gauche s'active de façon massive lorsque les mots sont écrits, ne s'active pas du tout lorsque les mots sont présentés dans la modalité auditive. Donc, c'est une première preuve que cette région intervient à un niveau de traitement qui est visuel. Nous ne sommes pas encore dans des régions qui, plus loin dans le système, vont s'intéresser à l'analyse de la sémantique des mots ou de la prononciation des mots qui seraient activés de façon conjointe. Vous voyez qu'ici, on est encore strictement dans la sphère visuelle du cerveau. Vous voyez également la variabilité d'un individu à l'autre. C'est tout à fait clair qu'on retrouve cette région chez tous les individus, et il suffit maintenant de quelques minutes pour l'identifier chez toute personne qui sait lire. Vous voyez aussi qu'il y a une certaine variabilité, ce n'est pas exactement la même position d'une personne à l'autre, ça a tendance à être toujours le même sillon occipito-temporal, mais là encore il y a une petite variabilité. Et si on quantifie cette variabilité à l'intérieur du système de coordonnées proposé par Jean Talleyrac, donc en X, en Y et en Z, à l'intérieur d'une boîte qui normalise tous ces cerveaux à la même taille, eh bien, cette variabilité ne dépasse pas 5 ou 6 millimètres. Et c'est tout à fait étonnant de penser qu'une activité culturelle comme la lecture, qui est apprise de N manières différentes, eh bien, finit par s'inscrire dans nos cerveaux d'une manière extrêmement reproductible. Ce qui varie un petit peu, c'est l'activation équivalente dans l'hémisphère droit. Vous voyez que certaines personnes ont une activation relativement forte de l'hémisphère droit, d'autres en ont beaucoup moins, d'autres n'en ont pas du tout. Et peut-être que ça explique, dans une certaine mesure, c'est une piste de recherche actuellement, la variabilité des capacités de récupération des patients avec alexie pure. Certains patients ne récupèrent pas du tout, je dirais que c'est malheureusement la règle chez les patients avec une alexie pure, mais certains d'entre eux vont récupérer progressivement certaines compétences, et on peut penser que c'est peut-être lié à la variabilité, avant même la lésion, dans l'utilisation de cette région de l'hémisphère droit. Alors, l'IRM fonctionnel permet également de regarder la spécialisation de ces régions pour la lecture, et il faut remonter déjà en 1996 pour voir ce travail qui était très élégant de Pius, Allison et leurs collègues aux États-Unis, qui avaient simplement présenté en alternance sur un écran d'ordinateur des chaînes de caractères lisibles versus des visages. Et ils ont observé, en analysant sujet par sujet très finement, avec une résolution qui était déjà assez élevée pour l'époque, ils ont analysé et montré qu'à l'intérieur de chaque hémisphère gauche, dans la région occipito-temporale, on pouvait trouver des petits territoires qui répondaient sélectivement à la présentation des chaînes de lettres ou à la présentation des visages. Vous voyez que systématiquement, il y a une relation géographique entre ces deux activations, pour les lettres et pour les visages, et l'activation pour les lettres a tendance à être plus latérale. Si vous suiviez la surface du cortex, vous voyez qu'il se plie comme ça, eh bien l'activation pour les lettres a tendance à être plus latérale que l'activation pour les visages. Alors c'est quelque chose qui est tout à fait systématique et qui a été reproduit de nombreuses fois, qui correspond maintenant à une forme de géométrie connue de la région occipito-temporale ventrale, qui s'étend non seulement au visage et aux mots, mais également à d'autres catégories, comme par exemple les objets ou les maisons. Lorsque vous faites ces expériences d'IRM fonctionnelles et que vous présentez ces différentes catégories d'objets, eh bien chacun d'entre vous dispose d'une mosaïque au niveau de la région occipito-temporale ventrale, dans laquelle les maisons et les paysages, les lieux, évoquent des régions relativement proches de la face mésiale, donc du milieu du cerveau. Et plus on s'écarte de façon latérale, plus on va croiser des régions qui sont sensibles au visage, aux mots et aux objets. Et il y a encore une organisation similaire en miroir sur la face latérale du cortex, dont je ne parlerai pas. Donc cette région qui est sensible à la reconnaissance visuelle des mots s'inscrit dans une mosaïque, et elle s'inscrit dans cette mosaïque à un endroit bien précis. Cette notion d'une mosaïque de micro-régions spécialisées est confirmée par une autre méthode qui est extrêmement intéressante pour sa haute résolution spatiale mais aussi temporelle, parce que vous savez que l'IRM n'a pas une très bonne résolution temporelle. Ici, il s'agit d'une technique d'enregistrement intracrânienne par le biais d'électrodes qui sont posées directement à la surface du cerveau, ou à la surface de la dure mère. Évidemment, c'est fait dans un contexte clinique tout à fait particulier pour l'exploration d'épilepsies sévères avant une intervention chirurgicale. On va, dans certains cas bien particuliers, pour des épilepsies qui sont résistantes à toute autre forme de traitement, on va explorer l'origine des crises d'épilepsie en plaçant tout autour de la région suspecte un certain nombre d'électrodes et, bien entendu, on va enregistrer en permanence 24 heures sur 24 en attendant la survenue de crises d'épilepsie. Alors, entre les crises, avec l'accord du patient, il est possible d'utiliser cette situation pour enregistrer des signaux qui ne sont pas des signaux évidemment d'un cerveau parfaitement normal, mais qui néanmoins nous informent sur l'organisation. On peut observer à ce moment-là que ces différentes électrodes qui sont situées sur la face ventrale de la région occipito-temporale vont avoir des réponses sélectives à certaines catégories d'objets, dont les mots écrits. Vous voyez ici quelle forme prennent ces réponses. Une électrode, ici, dans le travail de Pius, toujours en 1996, montre une déviation extrêmement forte, avec un voltage très intense, beaucoup plus intense que ce qu'on pourrait enregistrer à la surface du scalp. Lorsque les visages sont présentés à ce patient, il n'y a pas de réponse lorsqu'on présente des voitures, des images mélangées, des chaînes de lettres, des chaînes de chiffres, ou simplement un écran gris. Voyez. Donc c'est une réponse tout à fait sélective à la présentation de visages. Et vous avez de la même manière d'autres électrodes qui vont répondre à la présentation de chaînes de lettres ou de mots. Voyez. Ici, une négativité. Alors ça nous donne une indication qu'il existe des micro-territoires, ça nous donne également une indication de la latence de réponse de ces régions, et la latence est de l'ordre de 170-200 millisecondes après la présentation d'un mot sur l'écran. On est donc encore dans la phase d'élaboration du traitement visuel, puisque l'information, on estime que l'information commence à être traitée dans le pôle occipital, dans les aires extrastriées, aux alentours d'une centaine de millisecondes, peut-être un peu plus tôt, pour l'aire visuelle primaire. Donc il va y avoir une chaîne de traitement qui va prendre environ 200 millisecondes avant de commencer à avoir ces réponses à la reconnaissance visuelle des mots. Nous avons eu la chance, dans le laboratoire, avec Raphaël Gaillard, de pouvoir mettre ensemble toutes ces techniques dans un cas très particulier et de pouvoir montrer qu'il y a effectivement donc, une relation systématique entre les enregistrements intracrâniens, les enregistrements par IRM fonctionnel et l'analyse des lésions. Toute la difficulté, évidemment, lorsqu'on a affaire à des techniques d'enregistrement de l'activité cérébrale, comme l'IRM ou l'enregistrement intracrânien, c'est d'établir la causalité des observations que l'on fait. On voit des régions s'activer, mais jouent-elles un rôle causal dans la fonction que l'on cherche à étudier, ou bien sont-elles simplement activées de façon, je dirais, supplémentaire, au-delà d'un réseau minimal qui serait nécessaire à la fonction? Eh bien, pour le savoir, je crois que c'est la combinaison de méthodes d'imagerie et de méthodes de neuropsychologie, de l'étude des lésions, qui peut permettre de répondre à cette question. Dans cette étude de cas qui a été réalisée par Raphaël Gaillard avec Lionel Nakache et Laurent Cohen, il s'agissait d'un patient qui, souffrant d'une épilepsie très sévère, a commencé par être exploré par les chirurgiens à l'aide d'électrodes implantées. Vous voyez ici la trajectoire de ces différentes électrodes implantées. Et au moment de cette implantation, il a été possible d'explorer l'organisation de cette voie ventrale qui était donc explorée par électrode intracrânienne, également à l'aide de l'IRM fonctionnel. Et vous voyez ici l'activation donc, de cette mosaïque de régions visible par IRM fonctionnel chez cette personne particulière. Alors, vous retrouvez l'organisation que je viens de vous décrire, les mésons par exemple en jaune ici, qui activent les régions plus mésiales du lobe temporal, et quand on s'écarte, vous voyez la réponse aux outils, la réponse au visage, et du côté gauche, cette région en bleu foncé qui correspond à l'activation évoquée par des mots écrits. Ensuite, les chirurgiens, sur la base d'exploration de l'enregistrement des électrodes, ont décidé que le patient devait être opéré et qu'il fallait opérer dans une région qui était juste en arrière d'une région explorée ici par plusieurs électrodes et dans laquelle nous avions pu montrer, sur cette électrode particulière, qu'il y avait des réponses aux mots comparables à celles du travail de Pius et Allison que je viens de vous montrer. Donc des déviations électriques évoquées par les mots vers 200 millisecondes, précisément sur cette électrode. Alors, vous voyez que cette électrode était située juste en arrière du territoire qui, en IRM fonctionnel, en bleu foncé, était évoqué, était activé par les mots écrits. Donc la décision d'intervenir, de faire une opération chirurgicale pour enlever un tout petit bout de cortex, ce sont des lésions évidemment chirurgicales qu'on essaye de rendre les plus minimales possibles, circonscrites à l'origine de la crise d'épilepsie, et donc une toute petite région qui ensuite, sur cette image faite très rapidement après l'intervention chirurgicale, montre une petite lésion de la région occipito-temporale ventrale. Alors, bien entendu, sur la base des explorations fonctionnelles qui avaient été faites, nous avions prévenu à la fois les chirurgiens et le patient lui-même qu'il y avait un risque sur la base de ce qu'on connaissait du rôle de cette région, qu'il y avait un risque que le patient souffre de difficultés de lecture à la suite de cette intervention. Il a été jugé que ce risque était à mettre en rapport avec la gravité des crises d'épilepsie qui survenaient plusieurs fois par jour. Donc il a été jugé qu'il fallait quand même intervenir. Mais effectivement, après la lésion chirurgicale, si on mesure le temps de lecture de ce patient en fonction du nombre de lettres présentes sur le mot, vous voyez qu'avant l'intervention, le temps de lecture est strictement normal, constant, indépendamment du nombre de lettres. Après l'intervention chirurgicale, le patient est très ralenti, il arrive encore à lire les mots, mais il les lit avec une grande lenteur, et une lenteur d'autant plus grande que le stimulus a beaucoup de lettres. Donc il lit lettre à lettre, ou en tout cas morceau par morceau. Bien. On a pu montrer également que cette courbe récupérait, et qu'en quelques mois, le patient continuait à avoir une forme de lecture lettre à lettre, mais nettement plus rapide que quelques instants après l'intervention. Ce qui est intéressant, c'est comment se transforme l'image d'activation cérébrale en IRM. Si on refait l'examen donc après cette lésion, vous voyez ici la lésion avec cette flèche verte, on la devine ici en noir, et on a pu refaire donc l'image de l'activation évoquée par ces différentes stimulations visuelles, maison, outils, mots, et vous voyez que pratiquement toutes les régions sont encore en place, il y a évidemment un petit peu de variabilité, mais la seule activation qui manque, qui n'est simplement plus présente du tout, c'est l'activation qui était évoquée par les mots écrits ici en bleu. Alors, ce n'est pas complètement évident dans la mesure où ce n'est pas une région qui faisait partie de la région qui a été opérée. Vous voyez que la lésion s'arrête ici et cette région qui s'activait à la lecture des mots est intacte. D'autre part, on peut montrer qu'elle s'active encore lorsque le patient réfléchit à des mots écrits. Donc, probablement, elle est encore capable de s'activer par l'avant, par des voies descendantes qui redescendent jusqu'à cette région. Mais sur la base d'entrée visuelle, elle ne s'active pas normalement. Et il y a une forme de disconnexion sélective de cette région de la voie occipito-temporale ventrale qui est à mettre en corrélation, bien entendu, avec les performances de lecture dégradées de ce patient. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cas d'une petite lésion, ce qui évidemment est très rare, n'est pas le cas dans le cas des accidents vasculaires qui ne respectent pas spécialement des territoires corticaux restreints, eh bien, vous voyez qu'on peut avoir la perte sélective d'un de ces systèmes de la voie occipito-temporale ventrale, celui qui reconnaît les mots, sans nécessairement la perte d'autres systèmes qui sont associés à la reconnaissance des maisons, des visages ou des outils. Donc, nous avons conclu que cette région non seulement s'activait au cours de la lecture, qu'elle s'activait avec une latence fixe, mais que vraisemblablement, elle jouait un rôle causal dans notre capacité de reconnaître les mots écrits. Alors, le décours temporel peut être exploré par d'autres méthodes, il existe une méthode qui s'appelle la magnétoencéphalographie, dont j'avais parlé un petit peu dans le cours de l'année dernière, qui permet d'explorer, bien entendu avec une très haute résolution temporelle, l'évolution de l'activité électrique du cerveau normal, sans avoir à placer d'électrodes à l'intérieur du cerveau, simplement de l'extérieur, en détectant les champs magnétiques évoqué par l'activité cérébrale normale. Et cette méthode permet également d'avoir une certaine résolution spatiale dans la mesure où elle permet de reprojeter, comme sur cette image, à la surface du cortex, l'activité électrique évoquée à chaque instant. Alors ce que vous allez voir, c'est un film qui a été réalisé par des collègues américains, Marinkovic, Dale et Hallgren, qui examine donc le déroulé de l'activité cérébrale évoquée par des mots écrits. Et je vais essayer de l'arrêter au bon moment. Vous voyez que très rapidement, vous avez le temps qui se déroule ici, vous avez vu se dérouler l'activation d'abord à partir du pôle occipital, et puis très rapidement se dérouler le long de la voie occipito-temporale ventrale. Le cerveau a l'air lisse sur cette image parce qu'il a été déplissé d'une manière informatique, de manière à ce qu'on puisse voir à l'intérieur des sillons, qui rendent évidemment l'anatomie du cerveau humain très complexe. Vous voyez que l'activation très rapidement gagne la voie ventrale de l'hémisphère gauche, et ensuite on va avoir une activation très étendue et durable des régions de l'hémisphère gauche, de la voie temporale, latérale, temporale supérieure, temporale polaire, et des régions frontales inférieures gauche. Donc si on passe ce film en boucle, ici vous voyez bien l'ensemble des activations qui se produisent au cours de la lecture: traitement visuel, identification visuelle des mots et expansion à ces régions dont nous parlerons dans les cours suivants qui interviennent dans l'identification du sens des mots, dans la reconnaissance de la prononciation des mots. Alors si on veut résumer un petit peu ces observations, je vous parle depuis le début de ce cours d'une région occipito-temporale ventrale qui se situe ici, qui vraisemblablement joue le rôle d'un carrefour tout à fait essentiel, un goulot d'étranglement si l'on veut, pour accéder à l'ensemble des représentations linguistiques qui nous servent à articuler les mots, à reconnaître leur prononciation, à reconnaître leur sens. Les différentes régions qui sont situées ici en noir sur cette image sont toutes concernées d'une manière ou d'une autre, qui n'est pas encore parfaitement connue, par l'analyse du langage non seulement écrit mais parlé. Donc ces régions vraisemblablement se mettent en place avant même l'apprentissage de la lecture chez l'enfant lorsqu'il apprend à parler et lorsqu'il apprend à comprendre le langage, et effectivement on peut les voir activer très précocement dans le cerveau du bébé. Ce qui est particulier à la lecture, c'est la capacité d'accéder à ce réseau par la modalité visuelle et donc le développement d'une spécialisation pour la reconnaissance des mots écrits dans cette région occipitotemporale gauche dont on pense qu'elle va ensuite pouvoir en quelque sorte irriguer, vous voyez, activer de façon quasi simultanée différentes régions du lobe temporal. Donc une voie d'entrée visuelle dans la lecture et l'hypothèse sur laquelle nous travaillons dans le laboratoire, c'est que cette région intervient dans la reconnaissance invariante de la chaîne de caractères. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par reconnaissance invariante de la chaîne de caractères? Eh bien, il y a une première forme d'invariance, hein, c'est un problème très simple qui est résolu par notre système visuel, qui est une invariance pour la position, la taille et la casse ou la police de caractères dans lequel les mots sont présentés. Si je vous présente ces mots 2, 4, 6, 8 écrits en minuscules ici, vous allez continuer à pouvoir les reconnaître lorsqu'ils sont présentés dans des tailles différentes, à un autre endroit de votre champ visuel. Vous allez continuer à les reconnaître lorsqu'ils sont présentés en majuscules. Et si vous examinez attentivement la différence entre majuscules et minuscules, vous voyez que le problème n'est pas du tout trivial, dans la mesure où des formes extrêmement différentes sont utilisées pour représenter les mêmes lettres en minuscules ou en majuscules. Donc votre système visuel de lecteur expert a appris à traiter comme des formes équivalentes, le R minuscule et le R majuscule. Mais si on les regarde en détail, ils n'ont pas de relation particulière, autre qu'une association culturelle. Plusieurs expériences de psychologie se sont intéressées à cette situation où l'on présente une lettre sur deux en majuscule et en minuscule. C'est un stimulus complètement inhabituel. Vous voyez qu'il brise totalement la forme globale des caractères, qui n'a plus rien à voir avec la forme à laquelle vous êtes habitué. C'est peut-être la première fois que vous voyez ces stimuli, et pourtant, l'expérience montre qu'on continue à les reconnaître avec une grande rapidité, on est un tout petit peu ralenti par rapport à une présentation normale des mots. Alors, la deuxième chose que fait notre système visuel, qui peut paraître contradictoire avec la première, c'est que lorsque les différences sont pertinentes, elles peuvent être très petites au niveau du stimulus et être amplifiées par le système visuel pour accéder à des mots et à des prononciations complètement différentes. J'ai pris ici l'exemple des mots « deux » et « doux ». Vous êtes à une grande distance de cet écran. La différence entre ces deux stimuli consiste dans un tout petit peu de différence au niveau de la lettre « e » ici, qui est presque ronde, mais différente de la lettre « o » du mot « doux ». Votre système visuel considère que cette différence est pertinente et l'amplifie, alors que dans le même temps, il va négliger des différences beaucoup plus grandes entre, on l'a vu, le R minuscule et le R majuscule. Le troisième point qui est évidemment essentiel, c'est que notre système visuel doit avoir une sensibilité à l'agencement des composants. On peut le voir en réfléchissant à ce qui se passe pour des mots qui forment des anagrammes, comme le mot trèfle ici, qui, à une lettre près, que l'on va déplacer, peut donner un autre mot de la langue française, comme le mot reflet, et que toutes les lettres sont les mêmes. Leur agencement est en grande partie le même, mais évidemment, il y a suffisamment de différences pour que notre système visuel considère, de façon complètement automatique, sans que vous ayez à y réfléchir, qu'il s'agit de mots complètement différents. Donc il va falloir examiner si la région occipito-temporale ventrale réalise ce type d'invariance et d'extraction des organisations pertinentes de la chaîne de lettres. Le quatrième point, bien entendu, c'est que cette compétence que vous avez tous en tant que lecteurs pour l'extraction des paramètres pertinents de la chaîne de lettres, vous l'avez dans une langue donnée pour un système d'écriture donné. Il y a évidemment une grande variabilité culturelle dans les différentes formes et nous n'avons cette compétence que dans une langue particulière, ce qui implique, et nous l'avons vu la semaine dernière, que nous avons appris des régularités orthographiques de la chaîne de lettres. Je peux le montrer sous forme d'un autre exemple ici. S'il y a une tache d'encre sur cette chaîne de consonnes, vous ne pouvez pas évidemment savoir quelle est la lettre qui est cachée sous cette tache d'encre, alors que s'il y a une chaîne de lettres qui constitue un mot du français, bien entendu, vous pouvez anticiper quelle est la lettre qui est cachée. Cette forme d'anticipation, c'est la même que celle qui permettait, dans l'expérience de George Miller, d'avoir une meilleure détection des lettres dans le bruit lorsqu'il y a des redondances statistiques de la chaîne de lettres. Donc notre système doit être sensible à la redondance statistique. Et ça peut être un indice, finalement, pour identifier dans le cerveau quelles sont les régions pertinentes, de se demander quels sont les systèmes cérébraux qui sont sensibles aux régularités statistiques du français chez un lecteur du français. Alors, ces différents critères ou ces différentes capacités de notre système de lecture, nous allons les utiliser pour, l'une après l'autre, pour examiner comment le cerveau les implémente. Et nous allons voir que toujours, nous retombons sur cette région occipito-temporale ventrale gauche qui joue donc un rôle tout à fait crucial pour l'ensemble de ces différentes analyses. Donc, premier point, invariance pour la position. Une expérience très simple en IRM fonctionnel, nous avons faite avec il y a quelques années déjà avec Laurent Cohen, consiste à demander à une personne de fixer un point au centre de l'écran de l'ordinateur à l'intérieur de la machine d'IRM fonctionnel et de flasher des mots soit sur le côté droit du champ visuel, soit sur le côté gauche du champ visuel. Et on s'aperçoit, si on réalise l'intersection de ces images, que la première région qui s'active de façon constante, quel que soit le côté de présentation des mots, c'est la région occipito-temporale ventrale gauche, précisément dans ce sillon occipito-temporal. Donc cette région réalise une forme d'invariance. Alors, pour mieux comprendre le problème qui se présente à notre système visuel, je pense que vous savez que les mots qui sont présentés du côté droit de la scène visuelle vont commencer par être traités à l'intérieur du système visuel de l'hémisphère gauche. Et on le voit très très bien dans cette image en IRM fonctionnel ici, relativement en arrière du cerveau, au niveau, disons, de moins 70, moins 69 dans le système de Talleyrac, vous avez des activations qui sont strictement contralatérales au stimulus, c'est-à-dire que si le mot est à droite, l'activation est à gauche, si le mot est à gauche, l'activation se situe à droite. On se situe vraisemblablement ici, à l'intérieur de la région visuelle V4, qui a une forme de rétinotopie, et donc qui s'active de façon croisée. Maintenant, si vous vous déplacez un tout petit peu en avant dans le cerveau, vous voyez qu'on s'est déplacé en avant d'à peu près 1,5 cm jusqu'au niveau de moins 54, moins 57 dans le système de Talleyrac. Ce sont tout simplement des millimètres, hein, ce sont tout simplement les coordonnées de ces régions. Eh bien, vous voyez qu'on tombe sur la région occipito-temporale gauche, l'activation devient strictement latéralisée du côté gauche et l'activation devient rigoureusement identique que le mot ait été présenté du côté droit ou qu'il ait été présenté du côté gauche. Il y a donc une forme de convergence vers cette région à partir d'entrées qui sont spatialisées, qui sont réparties dans les régions occipitales du cerveau en fonction de leur position sur la rétine. Combien de temps est-ce que ça prend pour avoir cette convergence des informations spatiales vers une région bien identifiée ? Eh bien, on peut le mesurer à l'aide de la technique des potentiels évoqués en mesurant à la surface du scalp ici du sujet les ondes électriques évoquées lors de la présentation de ces mots présentés à droite ou à gauche du point de fixation. Et on observe deux étapes tout à fait claires correspondant à ce qu'on a vu en IRM fonctionnel. Vers 150 millisecondes, vous avez une négativité qui apparaît à la surface du scalp et qui est extrêmement latéralisée et contralatérale au stimulus qui est présenté. Donc si le mot est à gauche, la négativité est à droite, en arrière de la tête. Si le mot est à droite, la négativité est à gauche. Il suffit d'attendre quelques dizaines de millisecondes supplémentaires et vers 180-200 millisecondes, vous voyez que la topographie d'activation change du tout au tout, l'activation devient latéralisée du côté gauche du scalp, quel que soit le côté de présentation des mots, et vous voyez qu'essentiellement, elles se ressemblent énormément, indépendamment du côté de présentation des mots. Et en fait, si on a examiné ensuite la suite des ondes cérébrales, on verrait que toute la suite du traitement des mots devient homogène, quel que soit le côté de présentation des mots. Donc la première étape de normalisation pour la position spatiale des mots a été réalisée dans ces régions de l'hémisphère gauche au niveau de la voie ventrale. Alors, comment est-ce que cette invariance est réalisée ? Bien entendu, il faut transférer l'information vers cette région occipito-temporale gauche. Et il y a un problème de transfert qui se pose très littéralement au système nerveux. Lorsque les mots sont présentés à droite, l'information visuelle est initialement présente dans l'hémisphère gauche et il n'y a qu'un petit parcours de proche en proche à faire pour amener l'information à la région occipito-temporale. Par contre, lorsque le mot est présenté du côté gauche, l'information visuelle est initialement présente dans l'hémisphère droit et il va falloir la transférer à travers les connexions du corps calleux. Ce n'est pas une image anatomique correcte, on va en voir une dans quelques instants. Imaginez ce faisceau du corps calleux ici au-dessus. Et il va donc falloir faire un grand trajet, littéralement, dans le cerveau, afin d'amener ces informations à la bonne région. Alors, est-ce qu'on peut prouver que tel est le cas? Eh bien, on peut le prouver à nouveau par la méthode des lésions. Nous avons eu la chance de pouvoir étudier deux patients qui avaient subi des accidents vasculaires de la partie postérieure du corps calleux. Vous voyez ici, c'est une coupe donc, du cerveau sur sa face mésiale. On voit très très bien le corps calleux qui est en blanc ici, qui est donc ce faisceau de fibres qui relie les deux hémisphères. Vous voyez que ces deux patients, à la suite d'un accident vasculaire, ont perdu la partie postérieure du corps calleux. Et on observe chez ces personnes un syndrome qu'on appelle d'hémialexie. Hémialexie, ça veut dire qu'ils sont incapables de lire, comme le patient de Dejerine, mais seulement pour un côté du champ visuel. Et c'est évidemment exactement ce à quoi on s'attend sur la base de ce schéma, c'est-à-dire que l'interruption des connexions calleuses va empêcher les informations visuelles qui atterrissent dans l'hémisphère droit, donc en provenance du côté gauche du monde, d'être communiquées à ce système d'identification visuelle des mots. La forme que prend cette hémialexie peut varier suivant les patients, mais vous voyez ici le temps qu'a mis le patient pour lire les mots. Alors, ce n'est pas la peine de s'intéresser à cette colonne qui concerne les pseudomots parce qu'on demandait simplement aux patients de ne pas les lire dans cette situation-là. Mais si vous examinez simplement donc, les colonnes qui concernent les mots, vous voyez que lorsque les mots sont présentés dans les mi-champs droits, les patients sont les symboles ici ouverts par rapport aux sujets normaux qui sont les symboles fermés. Vous voyez que tous les deux patients font peu d'erreurs lorsque les mots sont présentés du côté droit du champ visuel et donc atterrissent dans l'hémisphère gauche. Même chose pour le temps de lecture qui est strictement normal pour ces mots présentés à droite. Par contre, lorsque les mots sont présentés à gauche, eh bien vous voyez que par rapport aux sujets normaux, les deux patients ont des temps de lecture qui sont extrêmement ralentis. Et l'un d'entre eux, pratiquement, n'arrive pas à lire aucun de ces mots présentés du côté gauche du champ visuel. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler une hémialexie pure, en total. L'autre patient, de façon assez intéressante, parvient à lire ces mots, mais avec un énorme ralentissement. Et là, on rentre dans le domaine de la recherche. On ne comprend pas très bien ce qui permet à ces patients de continuer avec un grand ralentissement à lire les mots. Le point pertinent, c'est vraisemblablement que ces patients, on leur présentait des mots qui étaient extrêmement concrets et fréquents de la langue française. Et il est probable que l'hémisphère droit, chez certaines personnes en tout cas, ait une certaine capacité de reconnaissance des mots fréquents. Le patient décrivait cette expérience de façon tout à fait particulière. Il disait « Lorsque les mots sont présentés du côté gauche, je ne vois pas le mot, mais je vois l'image de ce mot. Je vois des images associées à ce mot. Et ces images, je peux essayer de les nommer. Évidemment, si je vois un téléphone, je vais dire « téléphone ». Et c'est de cette manière-là que le patient arrivait à avoir un taux d'erreur relativement restreint, même pour des mots présentés dans son hémichamp gauche. On peut penser évidemment que le fait que la partie antérieure du corps calleux ait été intacte chez ces patients joue un rôle tout à fait crucial, puisqu'elle permet la transmission d'informations, peut-être plus vraisemblablement d'informations de type sémantique, sur la base donc des connexions qui vont relier les régions frontales entre elles. Mais la connexion directe qui permet d'amener les informations strictement visuelles sur la chaîne de caractères jusqu'à la région qui s'intéresse à l'identification visuelle des mots était détériorée, ce qui conduisait à un ralentissement très important. On peut voir également sur cette image l'absence d'activation causée par les mots présentés à gauche ou à droite chez l'un de ces patients chez qui nous avons pu mener une expérience d'IRM fonctionnelle. Je répète donc que chez les sujets normaux, on observe une activation strictement identique pour les mots présentés à gauche ou à droite. Chez le patient, on observait une activation essentiellement normale de la région de la forme visuelle des mots dans le cas où les mots étaient présentés du côté droit du champ visuel, donc avec un accès direct à l'intérieur de l'hémisphère gauche à cette région. Par contre, lorsque les mots étaient présentés du côté gauche, il n'y avait pas d'activation et c'était associé à ce déficit de lecture. On peut également, vous le savez, par la magie de l'IRM, faire des images des trajets des fibres à l'intérieur du cerveau. Et cette image vous montre la trajectoire des fibres de la substance blanche que nous avons pu identifier chez l'un de ces patients, un faisceau qui avait dégénéré à la suite de la lésion, qui s'étendait depuis les régions de la voie ventrale de l'hémisphère gauche à travers le corps calleux jusqu'aux régions occipitales et temporales de l'hémisphère droit. Donc il est vraisemblable que l'interruption de ce faisceau soit causalement responsable de l'hémialexie observée chez ces patients. Alors, l'idée que les mots présentés du côté droit du champ visuel ont un accès direct à la lecture, en tout cas l'identification visuelle des mots, alors que les mots présentés du côté gauche ont un accès indirect, est confirmée par l'analyse du comportement chez les lecteurs normaux en l'absence de lésions cérébrales. Et j'ai choisi pour le présenter un travail très récent de Finkbeimer, Almeida et Karamazza, paru il y a quelques mois, dont l'idée est la suivante. Ils présentent des mots, comme dans notre expérience, flashés du côté gauche ou du côté droit du champ visuel, et ils vont s'intéresser à la présence ou non d'une compétition entre un mot présenté du côté gauche et un mot présenté du côté droit. Donc ce que voit la personne, c'est tout d'abord une chaîne de caractères sans signification, à la fois à gauche et à droite, qui sert de masque, puis pour une durée variable qui est ajustée sujet par sujet, on présente un mot d'un côté, ou un mot de l'autre côté, ou deux mots simultanément. Et ensuite, on représente à nouveau cette chaîne de caractères qui masque le mot, et on va demander à la personne d'essayer d'identifier les mots. Et la tâche qu'elle doit réaliser, en réalité, c'est simplement de dire si sur l'écran, il y a eu un nom d'animal, sachant que le nom d'animal peut être à droite ou à gauche. Donc la personne doit essayer de lire simultanément les deux mots, s'il y en a deux, ou le mot unique, s'il y en a un seul, et de dire s'il s'agit d'un animal ou pas. Alors, ensuite, l'expérience complète, vous voyez sur ce tableau, consiste à présenter soit des essais où le mot cible, comme ici, goat, chèvre en français, est présenté du côté gauche, ou dans le cas où il est présenté du côté droit. Il peut y avoir évidemment des mots qui ressemblent très proches qui sont très proches ici du mot cible, comme par exemple le mot boat en anglais, bateau, qui n'est pas un nom d'animal, mais qui est très proche du mot chèvre. Et puis vous avez des essais bilatéraux dans lesquels le sujet doit réussir à détecter la présence d'un nom d'animal, mais il y a un deuxième mot qui est en compétition. Les résultats, qui sont ici exprimés en termes du pourcentage d'essais où le sujet parvient à détecter convenablement un nom d'animal lorsqu'il y en a effectivement un sur l'écran, montrent une très nette asymétrie entre la présentation de la cible du côté droit ou du côté gauche. Lorsque la cible est présentée dans le champ visuel droit, et donc elle atterrit dans l'hémisphère gauche, left hemisphere ici, vous voyez que le pourcentage d'erreurs, le pourcentage d'essais où le sujet ne réussit pas à détecter la cible, est moindre que lorsque la cible est présentée dans le champ visuel gauche et donc atterrit dans l'hémisphère droit. Donc ça, c'est la première observation qui est extrêmement classique. On a des performances meilleures, les sujets normaux ont des performances meilleures lorsque les mots qu'ils doivent traiter sont présentés dans le champ visuel droit que lorsqu'ils sont présentés dans le champ visuel gauche. Et on peut penser que c'est en partie au moins lié à cette notion d'une transmission de l'information par la voie calleuse qui est nécessaire lorsque ces mots sont présentés à l'hémisphère droit. Mais ce qui est plus intéressant ici, c'est qu'il y a un effet d'interférence du deuxième mot uniquement lorsque le mot cible est présenté à l'hémisphère droit. Donc vous voyez que la situation où deux mots sont présentés, qui est notée ici bilatérale, conduit à une détérioration des performances, mais exclusivement lorsque le mot cible est présent dans l'hémisphère droit et qu'il subit donc la compétition d'un mot qui est présenté directement à l'hémisphère gauche. Alors que dans le cas inverse, si la cible est présente dans l'hémisphère gauche et qu'il y a un distracteur dans l'hémisphère droit ou qu'il n'y en ait pas, ça n'a aucun coût pour le sujet. Donc c'est compatible avec l'idée que le mot qui atterrit dans l'hémisphère gauche subit un traitement privilégié, qu'il a un accès direct à l'identification visuelle des mots, sans interférence, alors que le mot distracteur qui atterrit dans l'hémisphère droit ne va pas interférer. Mais dans le cas inverse, le distracteur ici va fortement interférer et va ralentir ou détériorer les performances d'identification du mot présenté directement à l'hémisphère droit. Alors, on peut se demander évidemment s'il s'agit d'une interférence très globale, ça pourrait être simplement un effet de distraction de l'attention du sujet, et c'est là que l'équipe de Karamazza et ses collaborateurs introduit un certain nombre de contrôles qui sont intéressants. Dans l'expérience que je vous ai montrée, donc lorsqu'il y a deux mots sur l'écran, il y a un mot qui peut être la cible, comme goat ici, et un distracteur qui était dans la première expérience un autre mot, le mot flash. Dans les expériences suivantes, ils font varier la nature de ce mot distracteur. Alors on voit que si la chaîne distractrice est une chaîne de consonnes, ça n'est plus un mot, il y a encore cet effet de distraction. Ce que ça signifie, c'est qu'il suffit qu'il y ait des lettres dans l'hémisphère gauche pour avoir une compétition très forte avec le mot qui est présenté initialement à l'hémisphère droit. Donc la compétition se situe vraisemblablement dès le niveau du traitement des lettres. Par contre, vous voyez que lorsqu'on simplifie encore le stimulus, qu'on s'écarte d'un stimulus qui ressemble à un mot, par exemple pour présenter des chaînes de symboles, ou simplement des traits mélangés, ou même des caractères chinois, vous voyez que cette forme d'interférence disparaît complètement, il n'y a plus cette forme d'interaction ici au niveau des performances du sujet. Autrement dit, il y a une interférence, ce n'est pas simplement une distraction liée au fait qu'il y a un deuxième stimulus quelque part dans le champ visuel, parce que dans toutes ces conditions, il y a un deuxième stimulus dans le champ visuel, mais c'est une interférence tout à fait particulière au niveau du fait d'avoir à traiter simultanément deux chaînes de caractères, l'une qui a un accès privilégié parce qu'elle rentre plus directement dans l'hémisphère gauche, et l'autre qui intervient et qui distrait le sujet. Bien. Alors j'abandonne maintenant la question de la normalisation pour la position spatiale des mots. Nous avons vu qu'elle conduisait à identifier ce système de la voie occipito-temporale gauche pour parler maintenant de l'invariance pour la casse dans laquelle les mots sont présentés. Alors, la casse, c'est un terme en français on n'utilise pas beaucoup, c'est tout simplement la différence entre les majuscules et les minuscules. Et pour étudier la capacité donc, de notre système visuel à normaliser à travers ces différences entre majuscules et minuscules, nous avons utilisé au laboratoire une méthode d'amorçage subliminal qui est tout à fait classique en psychologie cognitive, dont je vous illustre ici le déroulement du point de vue du sujet. Donc, le sujet qui est impliqué dans cette expérience fixe un écran d'ordinateur sur lequel apparaissent successivement des formes sans signification, puis soudain un mot apparaît pour une durée extrêmement brève, ici dans cette expérience particulière 29 millisecondes, puis on va, selon l'expérience, faire apparaître un deuxième masque, ici des formes géométriques sans signification à nouveau, et enfin il va y avoir un deuxième mot qui va apparaître pour une durée beaucoup plus longue. Tout l'intérêt de cette expérimentation, c'est que lorsque vous êtes sujet, si les conditions sont réglées suffisamment finement, eh bien, vous n'êtes pas conscient de la présence du premier mot qui est présenté pour une durée très brève. Vous n'êtes conscient que du deuxième mot qui est présenté pour une durée longue. Et donc, on peut demander à la personne tout simplement de traiter ce deuxième mot, par exemple de décider s'il s'agit d'un objet ou d'un animal, ou toute autre forme de décision, sans que la personne sache qu'il existe un deuxième mot qui est présenté un petit peu auparavant et dont on va examiner s'il a une influence sur le traitement. Donc, dans l'exemple particulier ici, vous voyez que le premier mot est radio, écrit en majuscule, le deuxième mot est radio, écrit en minuscule. On peut se demander est-ce que la présentation préalable du mot radio, même écrit sous une forme différente, va accélérer le traitement du sujet par rapport à une situation de contrôle dans laquelle le mot caché, ici, serait un tout autre mot qui n'a aucun rapport avec le mot cible radio. Est-ce qu'il y a donc un avantage à une présentation subliminale des mots? Et des années de recherche en psychologie, nombreux chercheurs, donc Ken Forster, Ludovic Ferrand, avec Juan Segui, ses collaborateurs ici en France, beaucoup d'autres, Jonathan Granger, ont montré effectivement qu'il y a une influence tout à fait particulière du stimulus qui est présenté de façon subliminale sur le traitement du mot suivant. Et ici, dans l'expérience que j'avais réalisée, on va passer à l'imagerie ensuite, vous voyez ici les temps de réaction du sujet lorsqu'il réalise cette expérience. Évidemment, il n'est pas conscient qu'il y a une manipulation du mot subliminal, mais lorsque le mot subliminal coïncide avec le mot cible, donc lorsqu'en quelque sorte il a une pré-visualisation à son insu de ce mot, il y avait que le temps de réaction pour catégoriser le mot cible est accéléré par rapport à la situation où un mot complètement différent a été présenté de façon subliminale. Cette accélération est petite, elle est ici de l'ordre de 15 ou 20 millisecondes, mais elle est très systématique et très reproductible d'une personne à l'autre. Et surtout, le point fondamental, c'est qu'on observe cette accélération même si le mot change de forme visuelle entre la présentation 1 et la présentation 2. Donc, si je reviens à mon exemple, vous voyez que la forme visuelle du mot, en majuscule et en minuscule, est complètement différente, et pourtant, le temps de réaction s'accélère en dépit de ce changement de majuscule à minuscule. Presque de la même manière, il n'y a pas d'interaction significative ici, qu'on ait une répétition physique du même mot, qu'on ait une répétition de la forme abstraite du mot avec un passage de majuscule en minuscule. Pour vérifier que le sujet n'a pas conscience du mot, on peut utiliser différentes tâches. Dans notre cas, nous demandions simplement au sujet de juger parmi deux mots dans une autre expérience, de juger parmi deux mots possibles lequel était le mot caché. Et vous voyez que lorsqu'on demande un jugement explicite au sujet de cette manière-là, eh bien, ils sont au niveau du hasard, à 50% de chance de réussir à détecter le mot subliminal ou à l'identifier. Alors, l'intérêt, évidemment, c'est de pouvoir ensuite faire l'imagerie cérébrale de ce type de situation d'amorçage subliminal et d'examiner quelles sont les régions cérébrales qui changent d'activité lors des essais répétés par rapport aux essais non répétés. Et on a pu observer qu'en faisant l'imagerie de tout le cerveau, il y a essentiellement une seule région substantielle qui montre cet effet d'amorçage indépendant de la casse majuscule ou minuscule des mots, c'est à nouveau la région occipito-temporale ventrale gauche. Elle est vue ici en transparence, ici elle est vue en coupe, vous voyez qu'on retrouve bien la région la voie ventrale de l'hémisphère gauche. Et si on regarde l'activation de cette région, dans cette situation d'amorçage subliminal, vous voyez qu'il y a une réduction de l'activation qui est tout à fait parallèle. On va avoir un peu d'interférence sonore, excusez-moi. On a une réduction d'activation qui est tout à fait parallèle à ce qu'on observe dans les temps de réaction des sujets, c'est-à-dire moins d'activation lorsqu'il y a répétition que lorsqu'il y a présentation de deux mots complètement différents, et ce, quelle que soit la forme exacte de cette répétition, même lorsqu'on change de casse, donc qu'il s'agisse de mots en minuscule ou en majuscule. Ce que ça signifie, c'est que cette région est capable de repérer le fait que le même mot revienne deux fois de suite, même s'il revient sous des formes extrêmement différentes. Donc cette région réalise une forme d'invariance, mais cette fois-ci une invariance pour la forme visuelle du mot. Et on peut contraster cette région donc occipito-temporale ventrale avec d'autres régions plus occipitales et particulièrement dans l'hémisphère droit, mais à un seuil un petit peu plus bas, on les trouve également dans l'hémisphère gauche, mais vous voyez qu'elles se situent largement au niveau du pôle occipital de l'hémisphère droit. Ces régions montrent un effet d'amorçage subliminal, mais uniquement pour la répétition physique du même stimulus. Et qu'elles réduisent leur activité lorsqu'on présente deux fois le même stimulus physique, deux fois le même mot en majuscule, par exemple, ou deux fois en minuscule, mais elles ne réduisent plus leur activité, autrement dit, elles ne reconnaissent plus qu'il s'agit du même mot si on passe du mot radio écrit en majuscule au mot radio écrit en minuscule. Autrement dit, ces régions n'ont pas d'invariance perceptive, au moins pour cette forme particulière d'invariance. Mais celles-ci, dans la région occipito-temporale, ont une invariance perceptive. Alors, nous avons réalisé toute une série d'expériences sur la base de cet effet. On peut se poser évidemment de nombreuses questions. L'une d'entre elles, c'est tout simplement de savoir s'il s'agit vraiment d'une forme d'invariance abstraite ou culturelle ou simplement d'une invariance pour la taille. Parce que lorsque vous regardez les mots radio et radio en majuscule et en minuscule, vous voyez que, par exemple, pour la lettre O, eh bien, évidemment, c'est la même forme, elle a simplement une taille différente. Mais pour d'autres lettres, comme la lettre R, je l'ai mentionné, ce sont des formes radicalement différentes et en fait une association culturelle arbitraire qui lie la majuscule à la minuscule. Alors, nous avons réalisé une expérience dans laquelle on manipulait ce facteur-là en choisissant des mots qui étaient constitués de lettres similaires en majuscule et en minuscule ou d'autres mots qui étaient constitués exclusivement de lettres dont la forme en majuscule et en minuscule relève d'une convention culturelle. Et vous voyez qu'on peut trouver de tels mots, ils ne sont pas extrêmement fréquents, hein, et donc on va soit présenter deux fois le même mot, soit présenter deux mots différents. Eh bien, on a pu montrer de cette manière-là qu'au niveau du comportement, on continuait d'observer des effets d'amorçage, même pour la répétition de mots dont toutes les lettres sont complètement dissimilaires et relèvent d'une convention culturelle en majuscule et en minuscule. Donc ça, ce sont les temps de réaction. C'est d'ailleurs une expérience qui avait déjà été réalisée en psychologie. Et sur le plan de l'imagerie cérébrale, on a pu observer effectivement qu'au niveau de la région donc occipito-temporale gauche, dans la région fusiforme gauche, toujours presque exactement aux mêmes coordonnées d'une expérience à l'autre, eh bien vous observez cet effet d'amorçage subliminal, même lorsque les lettres sont très dissimilaires et relèvent d'une convention culturelle. C'est le premier indice que nous avons que la région occipito-temporale gauche non seulement réalise un traitement particulier pour les chaînes de caractères, mais a appris à le faire et a internalisé un certain nombre des conventions culturelles de l'orthographe du français. C'est à nouveau intéressant de la contraster avec une autre région. Par exemple, si vous examinez ce qui se passe dans la région fusiforme droite, eh bien, vous observez encore un effet d'amorçage pour les mots dont les lettres se ressemblent en majuscule et en minuscule, mais pas pour les mots dont les lettres ne se ressemblent pas. Autrement dit, cette région fusiforme droite, elle a vraisemblablement un traitement de la forme des lettres, mais en tant que forme, pas en tant qu'objet culturel. Seule la région gauche semble traiter les lettres, au moins dans cette expérience, sur la base des associations culturelles qu'elles entretiennent et qui permettent de définir l'identité abstraite de la lettre indépendamment du fait qu'elle apparaît en majuscule ou en minuscule. Donc, ça nous indique qu'il y a une réelle spécialisation du côté gauche et que cette spécialisation est le résultat d'un apprentissage. Alors, je vais juste terminer en mentionnant une expérience un petit peu plus complexe qui a porté sur le niveau de traitement et qui va nous amener à l'hypothèse que non seulement cette région gauche est spécialisée, mais elle est subdivisée en plusieurs petits territoires. Parce qu'évidemment, lorsque vous répétez deux fois le même mot, vous ne faites pas que répéter le même mot, en fait, vous répétez les mêmes lettres, vous répétez les mêmes ensembles de lettres, les mêmes syllabes, par exemple, et bien entendu, vous répétez le mot tout entier. Alors, on s'est posé la question, est-ce que ces différents niveaux de traitement peuvent être dissociés ? Évidemment, la difficulté expérimentale consistant à répéter les mêmes lettres sans répéter les mêmes mots. Et c'est là qu'on arrive à cette notion d'anagramme que je vous ai présentée au départ. Notre système visuel de lecteur doit être capable de faire la différence entre le mot trèfle et le mot reflet. Ce qui signifie qu'il ne s'arrête pas au niveau du traitement des lettres élémentaires, mais qu'il traite les combinaisons de lettres. Alors dans cette expérience, nous avons présenté comme mot amorce invisible pour le sujet, par exemple le mot trèfle, et comme mot cible, le mot reflet. La question étant, est-ce qu'il y a certaines régions qui s'attachent au niveau de la lettre qui vont montrer un effet d'amorçage de toute façon, et d'autres régions qui s'intéressent au niveau du mot qui ne montreront pas d'effet d'amorçage. Alors évidemment, la combinatoire totale de l'expérience est assez complexe. On peut donc présenter soit deux fois le même mot, soit les mêmes lettres mais pas les mêmes mots en utilisant cette notion d'anagramme, soit deux mots complètement différents. Et nous nous sommes arrangés également pour les présenter soit exactement à la même position sur l'écran, soit décalés d'une lettre. La raison est évidemment d'étudier cette notion d'invariance spatiale, mais aussi, vous voyez que lorsqu'on décale les mots trèfle et les mots reflet, on peut s'arranger pour présenter 5 sur les 6 lettres exactement à la même position sur la rétine. Alors là, le système visuel a un challenge tout à fait particulier dans la mesure où il reçoit presque la même information au même endroit sur la rétine, mais avec une lettre de différence en début ou en fin, qui fait toute la différence, qui fait qu'il s'agit de mots différents. Et sur le plan comportemental, ce qui est très intéressant, c'est que l'effet d'amorçage, l'accélération du temps de réaction des sujets, ne dépend que du mot tout entier. Autrement dit, vous voyez sur cette diapositive, ici, le temps de réaction des sujets s'améliore du moment qu'on présente le même mot, reflet suivi de reflet, il ne s'améliore plus du tout dès qu'on présente des mots différents, même lorsqu'il s'agit d'anagrammes. Donc vous n'êtes pas amélioré dans vos performances du fait d'avoir vu reflet avant d'avoir vu trèfle. Même si toutes les lettres sont communes, on aurait pu penser que ça accélère une partie du traitement, eh bien non, en réalité, vous n'êtes pas plus rapide que dans une situation où vous voyez, vous recevez comme stimulus des mots complètement différents. Et on voit ici également que cet effet d'amorçage est complètement indépendant de la position décalée d'une lettre des différents mots. Ça, c'est le comportement. Donc, le comportement du sujet est sensible à l'ensemble du mot. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde au niveau de l'activation cérébrale, les choses sont différentes et on peut effectivement dissocier ce système en plusieurs éléments. C'est un petit peu complexe, et je pense que peut-être les détails importent peu, mais si vous regardez dans ces régions postérieures, et ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, elles sont bilatérales ici, à gauche et aussi dans l'hémisphère droit, on observe cette forme tout à fait particulière d'interaction dans l'activation cérébrale qui signifie en fait que l'activation cérébrale est diminuée dès que les mêmes lettres sont présentées à la même position. Dès que vous changez les lettres d'une position, ça ne marche plus et vous retrouvez une activation élevée. Mais l'activation est diminuée, par exemple, pour trèfle suivi de reflet, à condition que toutes les lettres, sauf une, soient présentées exactement à la même position. Autrement dit, cette région contient vraisemblablement des détecteurs de lettres. Et elle n'est sensible qu'à la présence d'une lettre particulière à une position particulière. On peut imaginer une sorte de vaste détecteur de lettres. Si on se déplace un petit peu plus en avant, dans la région occipitotemporale gauche, eh bien on observe quelque chose de différent. Vous voyez que l'activation est très différente. Lorsque les mots sont différents, on a une activation élevée. Dès qu'une partie des lettres sont partagées, même si elles se déplacent sur l'écran, eh bien l'activation est réduite. Autrement dit, cette région commence à être invariante pour la position des lettres, mais elle ne s'intéresse pas au mot tout entier. Et c'est seulement lorsqu'on se déplace encore un petit peu plus en avant dans le système, vers la pointe ici de cette activation dans la région occipitotemporale, que l'on commence à voir une différenciation qui, malheureusement ici dans cette expérience, était statistiquement assez faible, entre les mots strictement identiques et leurs anagrammes. Autrement dit, en avant ici de cette région, il doit y avoir des neurones qui font la différence entre un mot et son anagramme, qui ne s'intéressent plus simplement à la lettre isolée, mais s'intéressent à la combinaison des lettres. Et dans la mesure où ce sont des anagrammes quand même très particulières, dans lesquelles pratiquement tous les bigrammes sont identiques, sauf au début et en fin, eh bien c'est une région qui doit avoir une sensibilité particulière à des objets, on ne sait pas très bien exactement lesquels, mais disons peut-être les morphèmes qui constituent ces mots. Peut-être le mot tout entier. Voilà, alors je vais m'arrêter là. Et donc pour conclure, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que cette région occipito-temporale ventrale joue un rôle tout à fait particulier et causal dans notre capacité de lire, qu'elle est située dans une région tout à fait particulière de la mosaïque ventrale et que vraisemblablement, elle est organisée d'une façon hiérarchique avec une invariance croissante, invariance pour la position des mots, invariance également pour des variations culturelles qui ne sont pas pertinentes, telles que la variation entre majuscules et minuscules. La semaine prochaine, nous continuerons d'explorer cette région et nous poserons en particulier la question de son origine dans l'évolution, puisque ce qui est tout à fait mystérieux actuellement, c'est qu'on puisse avoir une région aussi spécialisée pour la lecture, alors que bien entendu, notre cerveau n'a pas évolué pour la lecture, mais qu'il s'y reconvertit tant bien que mal. Donc nous essaierons de résoudre ce paradoxe en examinant quelle est la fonction de cette région dans l'évolution et en particulier chez les autres primates. Je vous remercie de votre attention. Or, comme il est de tradition, on peut peut-être prendre quelques questions si vous en avez. Oui, monsieur. Combien il y aurait de neurones? C'est une question assez difficile. Parce que sur le plan de l'IRM fonctionnel, on voit évidemment des tâches d'activation. Si on les voit, c'est vraisemblablement qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de neurones qui sont activés. Je ne pense pas que notre signal soit suffisamment sensible pour détecter beaucoup moins que cela, mais on ne sait pas exactement combien de neurones, on ne sait pas quantifier le signal d'IRM pour dire à tel signal d'IRM correspondrait tel nombre de neurones. Donc vraisemblablement, il s'agit de plusieurs centaines de milliers ou millions, mais c'est très difficile d'être précis sur ce point. Et un des concepts qui émerge actuellement, c'est la notion d'un entrecroisement de régions. Donc même au sein des régions qui s'intéressent à la lecture, il est probable que si l'on pouvait enregistrer au niveau des neurones uniques, on trouverait encore d'autres neurones qui s'intéressent encore aux objets ou qui s'intéressent encore au visage. Et donc cette spécialisation territoriale ne doit pas être prise trop au sens strict, c'est ce qu'on est capable de voir avec l'IRM, mais si on descendait au niveau neuronal, il est probable que toute la région n'est pas dédiée intégralement à la lecture. Mais c'est un sujet de recherche qui n'est pas encore très bien connu. Oui, monsieur. Oui, c'est une bonne question, je la répète très brièvement. Est-ce qu'on peut faire la différence entre les lésions qui affectent la région corticale particulière ou qui affectent ses afférences, donc ses entrées ou ses sorties? Là encore, c'est une question que Laurent Cohen a abordée dans ses publications. Effectivement, on peut catégoriser les patients qui souffrent d'alexie pure en fonction de ce type de classification. C'est-à-dire qu'il y a certains patients qui clairement souffrent d'un déficit, non pas dans la présence même de la région de la forme visuelle des mots, mais dans ses entrées. Et on a vu un exemple tout à fait caractéristique, qui est le plus simple, qui est connu depuis des années, qui est celui des lésions calleuses. Mais en fait, tout laisse à penser qu'il pourrait exister la même chose avec de toutes petites lésions de la substance blanche à l'intérieur de l'hémisphère gauche, et qu'on pourrait observer une hémialexie inverse, avec un patient qui aurait des difficultés de lecture, non pas dans son hémichamp gauche, mais dans son hémichamp droit uniquement. Et de fait, c'est très rare, mais ça peut être observé. ça n'est pas non plus toujours exploré en clinique, et donc il faut parfois aller chercher expérimentalement ce type d'observation. On peut penser également qu'il peut y avoir une déafférentation sur le plan des sorties de cette région. Et là encore, il existe des patients qui semblent correspondre assez bien à cette description. Donc effectivement, on peut commencer à avoir une espèce de typologie de la pathologie sur la base d'une organisation très simple dans laquelle soit les connexions, soit les régions elles-mêmes peuvent être lésées. Mais ça reste encore du domaine, je dirais, de la recherche et d'un modèle de l'organisation de ces régions pour la lecture. Peut-être prendre une dernière question, monsieur. Alors, il y a malheureusement très peu de recherches, à ma connaissance, dans l'imagerie de la langue arabe. Ça pose une question intéressante. Il y en a beaucoup plus en hébreu. On a des collègues israéliens qui ont réalisé le même type de travail, en particulier d'identification de la mosaïque de région. C'est le groupe de Uri Hasson et Rafi Malak. Et ils ont observé des résultats très similaires, à tel point qu'ils sont pratiquement superposables. Donc, il semble que l'organisation cérébrale pour la lecture soit virtuellement la même chez un lecteur qui lise de droite à gauche et qui lise dans une langue dans laquelle seules les consonnes sont transcrites. Alors, le rôle des consonnes et des voyelles n'est pas encore parfaitement compris. Il y a certaines données comportementales qui suggèrent que les consonnes jouent un rôle tout à fait particulier, bien différent des voyelles. Par exemple, ces expériences d'amorçage dont j'ai parlé, on peut, dans certaines conditions, ne présenter que les consonnes de l'amorce. Par exemple, remplacer le mot sport par les lettres SPRT. Et vous voyez que SPRT, en soi, suffit déjà à activer une fraction du réseau qui permet de reconnaître le mot sport, et on observe des effets d'amorçage qui sont pratiquement inchangés. Donc il y a vraisemblablement des rôles différenciés des consonnes et des voyelles, même au sein du français, mais sur le plan par contre de l'organisation cérébrale, ça n'est pas encore compris. Et tout récemment, par exemple, nous avons fait une expérience où nous analysions sélectivement la présence ou non des voyelles en plus des consonnes, et nous n'avons pas observé de différence d'activation cérébrale qui nous permettent de comprendre comment cette organisation se produit. Donc ça, c'est vraiment là une question qui n'est pas résolue. C'est une bonne question. Je n'ai pas connaissance de cas de ce type. Je ne vois pas non plus pourquoi ça serait particulièrement impossible. Je pense que la question générale que vous posez est tout à fait excellente, c'est-à-dire que toute une psychologie de la lecture s'intéresse à la lecture en tant que traitement d'un objet visuel particulier. Mais effectivement, je pense que c'est le cas pour mon groupe en particulier, nous ne sommes pas assez posé la question de l'influence de l'organisation de cet objet visuel par sa fonction, qui est d'entrer en communication avec un système phonologique. Et des données, notamment, c'est le cas du travail de Juan Segui, qui est ici aujourd'hui, montrent que l'organisation de la syllabe, par exemple, structure l'organisation de la lecture. Donc il y a un rôle des syllabes à l'écrit, et pas seulement à l'oral. Donc, il est vraisemblable que ces unités qui sont employées par notre voie occipito-temporale pour reconnaître les mots écrits sont en grande partie influencées par leur rôle particulier qui est de faire la communication en partie avec la phonologie. Il y a aussi évidemment un rôle qui est d'entrer en communication avec les représentations sémantiques des mots. Et cet aspect-là, à ma connaissance, n'a pas encore été très fortement étudié, mais on s'attend à ce que les unités qui sont codées dans le système visuel dépendent finalement du système phonologique. Il ne s'agisse pas simplement de régularités statistiques visuelles. Je vous montrerai la semaine prochaine que les régularités statistiques visuelles contribuent à l'organisation de cette région, mais vraisemblablement, à fréquence, par exemple, de bigrammes, de paires de lettres égales, on s'attend à ce que le rôle de ces paires de lettres pour la phonologie joue un rôle supplémentaire. Mais ça n'a, à ma connaissance, pas encore été démontré. Je vous remercie beaucoup. Je crois qu'il faut vraiment arrêter. Dans un quart d'heure, nous allons avoir l'exposé de Guinevere Eden, qui nous parlera du développement de la lecture et de la dyslexie, et de l'imagerie de la dyslexie.